1 Thessaloniciens, chapitre 5. Maintenant, nous allons lire les 11 premiers versets. Ça va être notre texte pour ce matin. On va le dépasser un petit peu, on va aller un petit peu plus loin, en fait, vers la fin du message. Mais j'aimerais commencer avec les versets 1 à 11. Un Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1. « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, nous sommes sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. » J'aimerais comprendre. On te remercie, Seigneur, que c'est ta parole qu'on vient de lire, qu'on considère ensemble ce matin. Et Seigneur, on a besoin d'être nourri des paroles de vie. Merci que tu es le pain de vie, tu es notre vie. On vient, Seigneur, se nourrir de toi-même. On veut, tes brebis ici rassemblées, entendre la voix de notre bon berger. On en a tellement besoin. Notre vie en dépend. Et Seigneur, je te prie que tu te fasses connaître à ceux qui ne te connaissent pas encore aujourd'hui et que tu leur révèles ton Fils Jésus-Christ. Comment c'est le moyen pour être réconcilié avec toi. Comment le Fils est celui par lequel on est réconcilié avec le Père. Que le Saint-Esprit est celui qui nous convainc de notre besoin de lui. Seigneur, puisses-tu faire cette œuvre au milieu de nous aujourd'hui pour ta gloire. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Un beau texte qu'on a lu. Et c'est un peu spécial que quand ça commence, il y a des passages comme ça dans la Bible, tu dis, demande-moi pourquoi ça n'a pas été écrit différemment. Vous savez, ça parle ici du retour du Seigneur. Puis il y a des détails qu'on aurait pu avoir, mais Paul a dit, ben c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit, j'ai pas besoin d'en écrire plus. Or, j'aurais aimé ça qu'il y en aurait écrit un peu plus. Mais bon, c'est Dieu qui en a décidé ainsi, et c'est pas pour rien. Parce que Dieu a voulu que notre confiance soit en lui, qu'on n'ait pas toutes les réponses, mais qu'on ait notre foi dans celui qui est la réponse. Et la Bible ne dit-elle pas qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel? Peut-être que si on avait toutes les réponses, toutes les explications, on n'aurait pas eu cette disposition face au Seigneur. Et ce que j'aimerais qu'on voit aujourd'hui, c'est comment Dieu révèle la profondeur de sa délivrance. C'est le titre du message. Que les temps sont en sa main, et non pas dans nos mains, et que c'est lui qui délivre, et non pas nous. Et ce que je veux vraiment porter notre attention aujourd'hui, c'est que oui, notre texte parle du retour du Seigneur, et on est ici dans un des deux épîtres eschatologiques du Nouveau Testament, c'est-à-dire un des deux épîtres qui nous parle des choses de la fin des temps, 1 et 2 Thessaloniciens. Mais je ne veux pas vraiment m'arrêter sur ça en tant que tel, je veux souligner le fait que l'accent de notre passage ce matin est un appel est un rappel du besoin de vivre à la lumière de son retour. Vivre dans le présent à la lumière de son retour. Et c'est ce que j'aimerais qu'on voit. Dans les versets 1 à 3, hein, ça parle de Le jour qui va venir comme un voleur dans la nuit, quand les hommes vont dire paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Mais après avoir dit ça sur les choses qui concernent le retour du Seigneur, il se met à parler aux chrétiens qui sont dans la lumière et à marcher dans cette lumière. Et donc, c'est ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble. Et je crois que c'est dans le fond, Dieu nous donne un incitatif. Il nous parle de la délivrance future pour nous inciter dans le présent à vivre à la lumière de cette œuvre, de cette attente. Ou pour prendre les mots de 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 5, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ, vers l'attente de Christ notre Seigneur. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vrai qu'il y a une motivation là-dedans. Lorsqu'on s'attend au Seigneur, on s'attend à son retour, on s'attend à sa délivrance pour l'avenir, n'est-ce pas aussi que c'est une motivation pour le présent. Quand on pense à la confusion généralisée, n'est-ce pas qu'on vit dans un temps de grande confusion, de ténèbres, que tout le monde ne sait plus trop où se garrocher et tout ça. N'est-ce pas merveilleux d'avoir la certitude de la parole de Dieu dans ces temps de confusion? Il y a quelque chose là-dedans qui nous donne une fermeté pour le présent. On n'a pas toutes les réponses, mais on connaît celui qui est la réponse. Il y a une assurance là-dedans qu'on a devant Dieu et devant les hommes. C'est ça que ça nous dit que si nos cœurs nous condamnent, Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses. Bien-aimé, si notre cœur nous condamne, nous avons de l'assurance devant Dieu. On peut avoir de l'assurance devant Dieu avec les choses que Dieu nous a révélées dans sa parole par rapport à lui. Et oui, une partie de son plan, on n'a pas tous les détails, mais on sait qu'au bout du compte, Christ a vaincu, on est du côté vainqueur et que peu importe ce qui va arriver, on peut avoir cette assurance que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu sais, quand ça dit dans Romains qu'il n'y a pas rien qui peut nous séparer de l'amour de Christ, ben il n'y a pas de pandémie, il n'y a pas de crise politique, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ça, je pense que c'est un grand incitatif à vivre en ce moment pour lui et pour sa gloire. Là-dessus, je vais amener une petite note. OK? Puis, j'ai été un peu personnel la semaine passée en vous partageant quelque chose moi, par rapport à ce qu'on peut vivre, comment ça pouvait m'affecter. Puis là, je vais en partager une autre. Je ne sais pas si vous autres avez eu cette pensée-là, mais j'ai eu une couple de fois, je dirais, dans la dernière année et demie, cette pensée, « Seigneur, sors-moi d'ici au plus vite. » OK, est-ce quelqu'un qui veut être honnête et dire, tu sais, comme c'est, quel temps pourri, quel, tu sais, monde brisé par le péché, puis, OK? Puis je me suis dit ça, puis je comprends l'idée, puis je pense qu'il y a une certaine légitimité à ça, mais je crois aussi que c'est pas la bonne disposition à avoir à la lumière de ce qu'on peut comprendre de notre texte de ce matin. C'est-à-dire que notre espérance vivante dans le Seigneur, oui, elle est par rapport à l'avenir, mais je crois qu'elle est aussi par rapport à la délivrance présente. Dieu est toujours l'Éternel, je suis, il est toujours dans le présent. Et même s'il promet la délivrance à venir, il l'a aussi accompli pour le présent en Jésus-Christ, parce qu'on est unis à lui dans sa mort et sa résurrection, parce que Christ est notre vie. Nous avons maintenant la victoire. Puis, il y a un peu un piège, j'ai hâte à cette victoire finale, il n'y aura plus de péché. Puis, évidemment, on soupire, dans Romains, on en parle de ça, on soupire après cette délivrance. Et c'est normal, mais il ne faut pas vivre là, il faut voir que Christ est notre victoire et notre délivrance maintenant. Et que même si tout est désespéré, on peut avoir la joie du Seigneur, la paix du Seigneur. On peut avoir cette marque de la grâce de Dieu qui est surnaturelle dans notre vie à cause de l'union que nous avons avec Christ dans sa mort et sa résurrection, dans sa vie. Et donc, au lieu de tomber dans le piège, parce que je pense que ça peut nous amener dans le cynisme, ou peut-être même aussi dans l'apathie. « Ah, Seigneur, quel monde pourri, je suis aussi bien de... » Comprenez-vous, on peut tomber dans le découragement. Toutes sortes de pièges qui peuvent tomber avec cette idée. Je crois que notre texte nous rappelle que le retour du Seigneur, puis vivre à la lumière de son retour, ça a des répercussions immédiates, bénéfiques. Donc, au lieu de dire « Seigneur, sors-moi d'ici ou plus vite », on peut dire « Wow, Seigneur, tu veux révéler quelque chose sur toi-même, puis opérer ta délivrance parmi ton peuple. » Mais n'est-ce pas qu'on a vu ça aussi? N'est-ce pas puis qu'on le voit même ce matin? N'est-ce pas qu'on voit l'œuvre de Dieu? On est rassemblés ici, en son nom, dans la joie du Seigneur, dans sa paix, dans son amour. C'est juste Dieu qui fait ça, mes amis. On n'a pas couru après personne d'essayer de manipuler le monde, puis c'est Dieu qui fait tout ça. C'est sa délivrance. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui a un reste de son peuple qui se réjouit en lui, qui tremble à sa parole, qui vraiment décide que Christ est plus précieux que tout le reste. Et vraiment, il y a quelque chose de merveilleux là-dedans. Et c'est ça que je veux qu'on considère ce matin. Et Dieu, oui, nous donne de l'espérance pour l'avenir, mais il nous motive pour le présent. Au lieu de chercher des échappatoires, on peut trouver notre refuge en Dieu en ce moment. Et donc, j'aimerais qu'on regarde ensemble tout simplement avec deux endroits où Dieu révèle la profondeur de sa délivrance. Deux endroits où Dieu révèle la profondeur de sa délivrance. D'abord, dans notre texte, dans les versets 11, 4 à 11, on voit cet endroit, le premier endroit, c'est dans notre vie intérieure. On ne va pas relire les versets, mais vous avez remarqué comment dans les versets 4 à 11, le thème de la lumière, des ténèbres, du sommeil et de l'éveil sont constamment ramenés. Nous ne sommes pas des lumières, des ténèbres, mais nous sommes de la lumière. Ne dormons pas comme les autres, mais soyons sobres, éveillés, OK? Donc, c'est vraiment ce qui revient beaucoup dans ces versets-là. Et le concept est pas mal simple. Ceux qui, dans le présent, sont en état d'éveil, sont réveillés spirituellement, qui marchent dans la lumière que Dieu trace sur leur chemin, ne sont pas surpris ni mal pris par les œuvres des ténèbres, par l'heure des ténèbres qui est sur le monde. Pourquoi? Parce que sont dans cet état que Jésus a décrit de veiller et prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Et je pense que c'est ça l'essentiel de la vie intérieure d'un chrétien dans la lumière. C'est-à-dire dans la lumière de Dieu, dans un état d'éveil. Puis là, juste pour clarifier, là, OK, c'est pas une affaire de perfection ici qu'on parle, c'est vraiment Dieu, sa présence active qui nous ramène, qui nous, tout le temps, tu sais, c'est pas comme si, ah, nous autres, là, on est ceux, là, qui marchent dans la lumière, puis on est ceux qu'on, tu sais, on a tout ce contrôle, là. Non, tu sais, le juste tombe cette fois, mais l'Éternel le relève. C'est pas qu'on est parfait, c'est pas que c'est tout acquis, mais Dieu, dans son œuvre, nous ramène tout le temps là. Je vous donne une illustration avec un psaume que j'aime bien. Dans le psaume, écoutez bien, dans le psaume 94, ça dit « L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi, pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. » Nos pensées, dans l'épreuve, dans les différents événements qu'on peut traverser, les relations qu'on a dans nos vies, nos pensées sont vaines. Pourquoi? Parce qu'elles sont ténèbres, elles ne sont pas éclairées. Nos pensées à nous, elles ne possèdent pas la lumière de la parole de Dieu, de Jésus-Christ, hein? La lumière qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Mais lorsque Dieu illumine nos cœurs, OK, puis ça j'ai pris ça d'Éphésiens, hein? Il illumine les yeux de notre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Quand Dieu nous ramène à ça, quand Dieu jette sa lumière comme ça dans nos cœurs, qu'est-ce que ça fait? Ça nous calme au jour du malheur. Ça calme nos cœurs. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu lui-même est notre confort. Dieu nous rappelle qu'il est là, qu'il est au contrôle, qu'il est encore bon, qu'il ne nous a pas abandonnés. Et je vous dirais que, je ne sais pas pour vous, je partageais ça avec quelqu'un, le début de la semaine passée, dimanche passé, puis le début de la semaine passée, je ne sais pas ce qui se passait dans les lieux célestes, mais pour moi, il y avait, ça brassait, je vous dis, à l'église. Quand j'étais allé au ministère de prison lundi, il y a un gars, il dit « Peux-tu prier pour moi? » J'ai comme, il n'a pas dit « nuage noir au-dessus du matin », mais c'est tellement négatif, il sentait. Fait que j'ai juste prié avec lui. Il y avait une négativité, une espèce de je ne sais pas trop c'était quoi exactement. Mais savez-vous quoi? On peut expérimenter ce calme au jour du malheur, cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ notre Seigneur, lorsque Dieu jette sa lumière là, dans ces moments-là, et ça, c'est une délivrance dans notre cœur, vous savez, c'est pas que Dieu va arrêter les circonstances, puis boum, ah, on n'a plus de problème, il n'y a plus personne qui se chicane nulle part, non. Mais dans notre cœur, Dieu nous délivre par la puissance de sa parole, par son esprit, et là, ces pensées-là, vaines, noires, sont amenées à l'obéissance de Christ, captives à l'obéissance de Christ. Mes amis, ça c'est glorieux, c'est merveilleux. Ça, c'est Dieu qui opère sa délivrance dans ses enfants. Et je pense que ça résume tellement bien, je vais vous lire les deux derniers, ben pas les deux derniers, mais à la fin du psaume 94 que j'ai commencé à vous citer, ça dit « Quand je dis mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » C'est de ça qu'on parle. Puis là, je veux attirer votre attention dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Regardez ce que ça dit au verset 9. « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. » Le Saint-Esprit utilise sa parole comme ça dans nos vies pour nous calmer, pour nous ramener à Jésus-Christ, lui qui nous a sauvés. Il nous amène cette sécurité, le salut, c'est la sécurité. Aucun mal ne peut m'atteindre. Si vous êtes ici et vous êtes en Jésus-Christ, rien ne peut vous séparer de l'amour de Christ. Si vous n'êtes pas en lui, si vous n'êtes pas encore racheté par son sang, vous êtes dans le plus grand des dangers. Parce que même si vous essayez de vous protéger le plus dans ce monde, vous êtes vulnérable, vous êtes premièrement vulnérable à tout ce qui est dans le monde spirituel, puis votre âme éternelle s'en va vers la perdition éternelle. Mais aussi, au verset 10, ça parle que Christ est notre vie, il est notre victoire. Afin que nous vivions ensemble avec lui. Puis ici, l'idée là, de vivre ensemble, c'est dans l'éternité, c'est à ça qu'on est destiné. On n'est pas destiné à la colère, mais à la possession du salut, à cette félicité éternelle. Maintenant, voici un point important par rapport à ça. Pourquoi on adore Dieu? Pourquoi on se rassemble? Pourquoi on se donne la peine, là? Un beau dimanche matin, là, on s'habille tout beau. Puis on vient à l'église. Pourquoi même qu'on se donnerait de la misère lorsque ça devient dangereux? D'avoir des contraventions, d'être en prison ou... Parce que ce qu'on a vécu, n'est-ce pas, cette année? Pourquoi? Parce qu'il est digne de notre adoration. Et mes amis, quand on vient ici puis qu'on adore le Dieu vivant, quand on vient lui rendre le culte qui lui est dû, c'est tellement vital pour notre vie intérieure, parce que c'est notre attachement par la foi, on vient adorer Dieu dans cette humilité, ce désir de s'accrocher à lui. Puis je pense que c'est exactement pour ça que Satan s'attaque tant à l'Église de Jésus-Christ en ce moment. Parce qu'adorer Dieu comme ça, comme on le fait, évidemment qu'on adore Dieu en esprit, en vérité, à tout moment de la semaine, puis tout le temps, mais il y a quelque chose avec le rassemblement, the gathering, le rassemblement de l'Église ensemble, qui est précieux, qui est puissant, puis Dieu est là au milieu de nous, et il y a vraiment une délivrance que Dieu opère dans la vie de ses enfants comme ça, de la joie, tu sais, délivré de ce nuage noir, ces pensées vaines, toutes ces choses qui peuvent nous prendre. Pourquoi? Parce que on est dans l'allégresse, dans la joie, on s'encourage, on s'excite à l'amour et aux bonnes œuvres, à la confiance dans le Seigneur. C'est ça, venir adorer le Seigneur. Puis les gens vont dire, « Ouais, mais Satan, ça t'attaque pas juste aux chrétiens. Et de tout le monde est pogné avec des problèmes comme ça. » OK, oui, c'est vrai. Mais prenons un exemple de l'Ancien Testament. Vous connaissez les trois amis de Daniel, dans Daniel au chapitre 3, n'est-ce pas?
Oui.
Est-ce que ceux qui devaient adorer, est-ce que l'exigence du roi d'adorer cette statue, c'était exclusif pour le peuple juif, tout ça?
Non, c'était tout le monde. OK? Mais ce que l'histoire fait ressortir, c'est que tout le monde l'adorait, mais les vrais adorateurs du Dieu vivant se sont manifestés par ça. L'attaque était contre tout le monde, parce que c'était au prix de leur vie, OK? C'était une attaque généralisée. Mais ceux qui connaissaient le Dieu vivant, Shadrach, Meshach et Abednego, ça a été... La vie de Christ en eux a été manifestée comme ça. C'est pas comme si on dit on va faire un show, c'est pas comme si Nebuchadnezzar était juste après ces trois-là. En fait, tu n'as même pas remarqué sur le coup, c'est des gens qui ont dit hey, t'as-tu vu eux autres? Ils se sont pas prosternés. Et il y a quelque chose ici, ils se sont démarqués en n'acceptant pas d'adorer autre que le Dieu trois fois saint, le Dieu, l'Éternel, le Dieu vivant. Et cette vie intérieure de Christ à l'intérieur des trois amis de Daniel est sortie, si vous voulez, s'est manifestée par le refus d'adorer un autre que le seul vrai Dieu. Et l'Église vit la même réalité en ce moment. Le reste, l'Église, le corps de Christ, l'épouse, ceux qui lui appartiennent, ceux qui ont cette vie intérieure, qui ne l'étouffe pas, qui ne la mettent pas sous un boisseau, ils l'expriment. Parce que c'est à ça qu'on est destiné, à la possession du salut, à cette délivrance. C'est pas leur vie qui s'exprime, c'est celle de Christ. Il faut qu'on comprenne ça, le monde voudrait dire « Ah, vous voulez faire un show, vous voulez... ils veulent faire ça par rapport à nous, c'est pas par rapport à nous. Moi, je suis pas ici pour moi. » Ah, ça me fait-tu du bien? Absolument. Mais je suis ici parce que mon Dieu en est digne. Puis que je l'adore avec son peuple parce que c'est lui. Maintenant, on va passer l'éternité, mes amis. On a des gens d'un peu partout ici, de toutes sortes de pays, de nations. Imaginez-vous au ciel, il va y avoir une foule innombrable de tous les peuples, de toutes les langues, de toutes les nations, qui vont passer l'éternité à célébrer la gloire de celui qui est mort pour leur péché. Est-ce que sur terre, c'est trop demandé? Est-ce que sur terre, c'est bizarre de prendre un temps comme ça pour venir le célébrer, lui, qui est notre vie, lui qui s'est donné pour qu'on puisse vivre? Mes amis, moi, j'ai zéro option, là. Puis s'il faut, j'irai en prison pour ça. Je ne vais pas courir après. Mais je vais dire comme Shadrach, Meshach et Abednego, au roi, sache, je ne vais pas me prosterner. Je ne peux pas. Puis il y a quelque chose dans le texte que je trouve tellement beau. Verset 11. 1 Thessaloniciens 5, 11. C'est pourquoi, avec tout ce qu'il vient de dire, sur les ténèbres, la lumière, le salut qu'on a en Jésus-Christ, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Mes amis, je pense que comme jamais auparavant, on a besoin de ce ministère spirituel les uns envers les autres. Oh, mes amis, on est dans une guerre spirituelle, je pense qu'on n'a pas besoin de convaincre grand monde là-dessus. Mais Dieu répond aux prières. Hier, on avait un temps en famille. Je parle avec ma famille élargie, là, avec ma mère, ma soeur, puis le chum de ma soeur. Puis j'appréhendais un peu, j'ai dit, on a prié là-dessus. Puis on a mis notre confiance à l'Éternel, puis savez-vous quoi, on a eu un temps extraordinaire. On a parlé de rien qui pouvait, mais... Puis, tu sais, ma famille n'est pas encore sauvée. Puis on prie pour leur salut, évidemment. Mais Dieu a répondu aux prières. Dieu est vivant. Puis savez-vous quoi, mes amis? On a besoin de s'encourager de même là-dedans, de voir, Dieu est digne de confiance. Puis là, on se parle, puis on voit, c'est-tu quoi? J'ai vu Dieu faire ça. C'est-tu quoi? Je vois des gens qui croient à la prière, puis qui veulent juste dire merci. Il y a quelque chose là-dedans. On a tellement besoin de ça, et plus que jamais, mes amis. Savez-vous, j'ai eu un vidéo que j'ai vu dernièrement. C'était pas chrétien partout, c'était plus là, psychologique, OK? Mais ça parlait des différents, tu sais, les mouvements sociaux qu'il y a eu, là, bon, la révolution bolchevique, Mao, puis bon, les différents mouvements sociaux où est-ce que des gouvernements totalitaires se sont installés, puis bon, juste par intérêt, j'ai regardé ça un petit peu, puis à la fin, tu sais, ça parlait un peu de comment contrer ça. Puis une des choses qu'il disait, puis là, c'est quelque chose de pas chrétien ni rien, ça disait la force, la puissance du groupe. Quand les gens sont isolés, sont vulnérables, quand ils sont ensemble, ils se fortifient, ils s'aident. Ça, c'est des gens qui ne connaissent même pas le Seigneur. Imaginez-vous que nous, on se rassemble au nom du Seigneur. Christ est notre unité.
Amen.
Imaginez-vous comment c'est puissant, comment c'est... Au-delà, ça pète le plafond, là. On dit tout ça, ça pète le plafond? Non, mais là, je viens de le dire. Ouais, c'est ça. Là-dessus, je veux vous lire un verset tellement extraordinaire. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher, puis en passant, il était en prison à cause de l'Évangile. À marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver. Elle est déjà là. Il faut juste la conserver, l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est ça qui arrive lorsque le peuple de Dieu se réunit ensemble en esprit et en vérité. Ça m'amène au deuxième endroit où est-ce que Dieu opère comme ça sa délivrance, non seulement dans notre vie intérieure, mais aussi dans notre vie d'église. Et ça, on a ça dans les versets 12 à 15. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. La délivrance de Dieu dans notre vie d'église. Ces versets nous montrent que cette délivrance dans la vie d'église, c'est à travers l'instrumentalité humaine. Il parle aux personnes, OK? Puis il y a cette instrumentalité humaine où est-ce que c'est Dieu qui délivre, mais il se sert des uns des autres. C'est une bonne étude à faire, ça, les uns les autres dans la Bible. On s'accueille les uns les autres. OK, il y a toutes sortes de choses les uns les autres. Puis, ça l'amène dans différents domaines. D'abord, ça parle avec ceux qui sont en direction. Les versets 12 et 13, ceux qui dirigent. Juste, on voit ici, ces gens-là sont envoyés par le Seigneur. OK, ça dit qu'ils vous dirigent dans le Seigneur. Une référence parallèle qu'on peut mettre avec ça. Ça dit qu'il a donné les uns pour apôtres, les autres pour prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, mais par leur ruse dans les moyens de séduction. Le leadership de l'Église est un don de Dieu. Aussi, ça nous dit que ces dirigeants-là de l'Église sont là pour exhorter. Et littéralement, le mot pour exhorter, ça veut dire mettre dans la pensée. L'idée, c'est de dire qu'on a besoin de se faire rappeler, comme Paul le dit, pas Paul, mais Pierre. Il dit, vous savez ces choses, mais je vous les rappelle. Pourquoi? Parce qu'on a cette tendance oublieuse, on a tendance, des fois, à s'égarer dans nos pensées, et on a besoin les uns des autres. Puis les dirigeants, c'est un peu comme la voix humaine du Seigneur. C'est pas qu'ils sont spéciaux en tant que tels, mais Dieu s'en sert, les a mis là pour paître son troupeau. Un sous-berger qui est sous la houlette du bon berger, pour les conduire dans ses pâturages, auprès de ses eaux paisibles. Ça dit aussi que ces dirigeants-là de l'Église, ça dit, ils travaillent parmi vous, au milieu du peuple de Dieu, parce qu'ils sont partie intégrante de son œuvre de grâce, pour le salut des âmes, puis la sanctification du peuple de Dieu. Et mes amis, l'Église qui oublie ça, et malheureusement, j'ai des témoignages d'amis dans le ministère, où est-ce que avec les circonstances qu'on a vues dans la dernière année et demie, l'Église qui oublie ça et qui s'oppose à ça, trace le chemin de sa propre destruction. Un peu comme une femme qui résiste à la direction de son mari, un enfant à la direction de ses parents. Parce que ce sont tous des autorités imparfaites et faillibles. On est très clair là-dessus, mais elles sont instituées de Dieu. Et la soumission spirituelle à celle-ci, et je dis spirituel, on peut se soumettre en regimbant. On peut se soumettre avec une mauvaise attitude, mais une soumission spirituelle, c'est l'expression de notre foi en Dieu, de notre soumission à sa direction souveraine. On voit au-delà de la personne. On voit le Dieu qui l'a placé là. Puis de façon concrète, par rapport à ça, juste rapidement, parce que je pense qu'il y a des instructions ici qui valent la peine qu'on s'arrête, ça dit, au début du verset 12, d'avoir de la considération pour ces leaders-là, c'est-à-dire avoir un respect. Honorer le rôle, la fonction, Dieu les a placés là. Quand ça dit d'avoir beaucoup d'affection, je pense que c'est l'idée de valoriser, d'accorder une importance, pas idolâtrique, mais un support pour l'appel qu'il y a sur leur vie, pour leur famille. La famille qui est avec eux autres. En exerçant ce que ça dit dans... Je continue dans Éphésiens, j'avais dit tantôt, chapitre 4, j'avais lu les versets 11 à 14, mais écoutez, 15 et 16. « Mais professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Quand ça parle aussi d'être en paix entre vous, je pense que c'est que tous et chacun s'efforcent de ne pas créer de friction ou de faction. De friction ou de faction entre eux autres, ou face au leadership de l'Assemblée. Pourquoi? Parce qu'on a l'esprit de voir s'édifier les uns les autres, s'aider les uns les autres. Et ça m'amène au verset 14. Des fois, ce n'est pas toujours évident. Il y en a qui peuvent avoir des problèmes. Ça parle d'avertir ceux qui vivent dans le désordre. Consoler ceux qui sont abattus. Il y en a des fois qui sont atteints et ont besoin d'être fortifiés. Se supporter les faibles. Il y en a qui ont plus de misère que d'autres. User de patience envers tous. Des fois, il y en a qui nous tannent. Puis on n'aurait pas le goût d'être patient. Si ça dit d'être patient, c'est parce qu'on n'aurait pas le goût d'être patient. Donc, ça amène au deuxième point, non seulement par rapport au leadership, mais par rapport à ceux qui peuvent être dans différents désordres. Et je pense que ce verset-là nous parle, qui peut, tu sais, ça dit « avertissez ». Et vous savez que l'avertissement, ce n'est pas une fin en tant que telle. L'avertissement, c'est le moyen vers la fin qui est la restauration. Tu ne vas pas avertir la personne pour lui montrer comment elle a donc de la misère, puis toi, tu as compris, puis tout ça. Non, tu la reprends, tu l'exhortes pour la relever, pour l'aider, l'esprit, ça dit... Puis là, j'ai pas mis la référence dans mes notes, mais ça me vient juste à l'esprit maintenant. Ça dit, si quelqu'un d'entre vous est pris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le comment? En le pointant du doigt, en disant, hey, toi, mon espèce de charnel. Non. Reprenez-le dans un esprit de douceur. Prends garde à toi-même que tu sois aussi tenté. Prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur. Et en instruisant, c'est ça l'esprit ici, de l'avertissement de ceux qui peuvent être dans le désordre, de ceux qui peuvent... Aussi, tu peux avoir quelqu'un qui est déprimé, qui a de la misère, ben là, allume, réveille, aligne tes yeux devant un trou. C'est pas l'approche qu'on devrait avoir. Puis là, je le mets gros, là, mais des fois, on le dit pas nécessairement devant la personne, mais on peut avoir cet esprit-là qui nous anime. Puis ça parle aussi fort que les mots. Non, c'est un moyen que Dieu donne pour la restauration dans son Église. Et là-dessus, Paul, quand il parlait aux Corinthiens, qui étaient des gens qui demandaient de la patience à Paul, qui étaient des gens qui, OK, qu'est-ce qu'il leur dit dans 2 Corinthiens 10, verset 8? « Et même, je me glorifiais un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction. Je ne serai en avoir honte. » Puis dans le chapitre 12 du même épître, il dit... Vous vous imaginez depuis longtemps que nous justifions auprès de vous. C'est devant Dieu en Christ que nous parlons. Et cela, bien-aimés, nous le disons pour votre édification. Il y avait des problèmes avec les Corinthiens, mais ils voulaient leur bien, ils voulaient leur édification, ils voulaient les construire. Et finalement, au verset 15, dans la vie d'Église, par rapport à ceux qui dirigent, par rapport à ceux qui peuvent être dans certains désordres, puis ceux qui sont en désaccord, ça dit, prenez garde que personne ne rentre à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Vous savez, les désaccords, les malentendus, les conflits, c'est inévitable dans toute relation humaine. Tant que les humains ont cette nature humaine adamique, ça va arriver, comptez là-dessus. Dans les familles, dans les amis, dans les frères et sœurs dans l'Église. Mais c'est là où Jésus-Christ, justement, fait la différence. Au lieu de rendre le mal par le mal, on recherche toujours le bien. Et c'est Christ qui est ce bien. On recherche Christ. Christ, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Dernièrement, le Seigneur a permis différentes situations parce que j'ai été confronté un peu, si vous voulez, à des situations, des personnes qui étaient en désaccord avec ce que moi je disais, je voulais, ok? Et je vous dis honnêtement, mon but c'était pas d'avoir raison. Puis, ça n'aurait pas été assez, ça aurait été juste humain. Tu sais, quand tu as raison et tu as gagné l'argument, tu as juste gagné l'argument. Le but, tu veux gagner la personne à Christ. Si elle n'est pas sauvée, pour qu'elle soit sauvée. Puis, un frère, ça, tu veux. Ok, finalement, tu désires que, comme Paul le dit aux Galates, où c'est qu'elle dit ça, donc, Galates? Ici, il dit, mes petits enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Tu veux pas avoir raison, tu veux que Christ soit formé là-dedans. C'est l'opportunité que Dieu te donne pour pointer à Christ, pour que Christ là-dedans soit glorifié, magnifié. Dans toutes les situations, et ça veut dire rechercher Christ et rechercher le bien. Christ est notre bien suprême. Et c'est la seule façon de ne pas rendre le mal pour le mal, mais de vraiment, en vérité, rechercher le bien. Parce que Christ est notre ultime bien. Et mes amis, je pense que c'est seulement de cette façon-là que la délivrance de Dieu dans une église comme la nôtre, elle s'opère. Ça commence dans notre vie intérieure à chacun. L'endroit où la lumière et la vie de Dieu est dans les enfants de Dieu. Où Dieu nous éclaire par sa lumière, où la vie de Christ nous anime afin de restaurer ses relations. On est des instruments dans les mains de notre Rédempteur. Et ça va donner une vie d'église. Où est-ce que Christ a la prééminence? Où est-ce que sa vie est manifestée? Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne comme ça dit dans Éphésiens chapitre 3. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que Dieu est glorifié au milieu de nous autres. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Maintenant, voici où je veux faire atterrir notre avion ce matin. Le vol qu'on a pris sur les ailes de l'Éternel ce matin. Hey, je suis poète, hein? Mais je veux juste amener ça à ceci. Rappelez-vous que j'ai commencé en disant, en mettant devant nos yeux le fait que il y a des choses que Dieu met devant nos yeux par rapport au futur. Il nous parle de son retour. Il parle que quand les hommes vont dire pays sur terre, okay, Dieu nous parle de choses que lui connaît sur l'avenir. Il nous en a révélé une partie. Mais j'ai dit que Dieu nous les donnait pour nous motiver par rapport au présent. Que si Dieu promet la délivrance à venir, c'est parce qu'il est notre délivrance dans le présent. Et qu'au lieu de dire « Seigneur, sors-moi d'ici », on recherche celui qui, dans le présent, et notre bien. On recherche le bien, on recherche celui qui est notre vie, qui est notre bien, qui est notre délivrance. Et donc, on peut dire, Seigneur, où tu veux te révéler dans ce que tu es en train de permettre en ce moment? On est rendu là où le Seigneur nous a amenés. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Il a été fidèle, celui qui nous a appelés est fidèle, c'est lui qui va le faire. On a lu ça aussi. Et donc, je pense que c'est une bonne question à te poser, c'est « Seigneur, où tu veux te révéler dans ma vie avec ces événements que j'ai, ces relations avec lesquelles tu permets que j'entretienne avec des gens, les épreuves? » C'est une excellente question à se poser. « Seigneur, où tu veux te révéler là-dedans? » Pourquoi? Parce que ça nous place en position de dépendance face à Dieu. Ça nous place en position d'attente. « Seigneur, c'est quoi que tu veux révéler sur toi-même avec ça? » Qu'est-ce que tu veux faire, mais surtout révéler sur toi-même, puis tu vas agir à la lumière de ce que tu es, justement. Et voici, je pense, où est-ce que c'est important pour nous autres. C'est, ça, c'est la réponse de la foi à ce que Dieu nous envoie. Vous savez, il nous arrive toutes des affaires. Puis on a tout passé à travers la dernière année et demie, il y a beaucoup de choses qu'on a en commun, mais on a aussi toutes nos vies individuelles avec leurs spécificités. La question, c'est comment je réponds à ça? Je réponds en disant « Ah, Seigneur, ce modèle-là, puis au secours, je suis plus capable, puis l'apathie ou le cynisme, ou Seigneur, c'est un rendez-vous avec toi. » Ça, c'est la réponse de la foi. Chercher le Seigneur qui est notre bien, notre ultime bien, la réponse de la foi répond à ce que Dieu a décidé d'envoyer. Donc, on ne répond pas aux événements, aux personnes, aux choses qui arrivent. On répond à Dieu qui est celui qui permet ces événements, ces personnes et toutes ces choses. Et donc, voici mon appel ce matin, c'est bien simple. D'abord, est-ce que le Sauveur te révèle ton besoin de la délivrance du salut? Est-ce que tu es ici et tu n'as pas encore été délivré de ton péché? Tu es encore sous la condamnation de ton péché et tu as besoin du salut qui est en Jésus-Christ. Vous savez, la croix, c'est pas juste un événement historique qui est arrivé il y a 2000 ans puis on apprend ça à l'école. La croix, c'est la victoire sur le péché. C'est l'ultime victoire sur ce qui détruit l'humanité depuis des centaines, des milliers d'années. La croix, c'est la provision de Dieu pour le salut de ton âme. Et Christ est vivant, il a vaincu la mort, il est vivant maintenant pour sauver quiconque s'approche de lui par la foi. Pas par les œuvres, pas en étant une bonne personne, mais en acceptant celui qui est la seule bonne personne, Jésus-Christ, Dieu fait homme. Maintenant, si tu es ici et tu es un enfant de Dieu, est-ce que le Seigneur se sert de ce que tu viens d'entendre ce matin pour te révéler la délivrance de sa vie? Vous savez, la délivrance, la vie de Christ supplante et surmonte la puissance et les ravages de la mort dans notre vie. N'est-ce pas que ça fait des ravages le péché, la mort, ça détruit, ça l'éloigne, mais la vie de Christ, elle rapproche, elle restaure. Et Dieu nous appelle à lui ce matin pour ça, pour faire cette œuvre. Et je termine avec deux passages tellement beaux. Écoutez bien. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. » Écoutez ce qu'Ésaïe a eu à dire aussi dans le même sens. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc. Et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. » Seigneur, merci que tu appelles ton peuple à toi, que tu appelles aussi les perdus à toi. Je te prie que toi, Esprit du Dieu vivant, tu convainques maintenant ceux qui se trouvent encore dans les ténèbres, peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte, peut-être qu'il y a une tromperie qui arrive dans leur vie en ce moment, qui les empêche de voir leur état, révèle, jette la lumière dans la vie de ces âmes précieuses, de ces personnes que tu as amenées ici ce matin. Seigneur, on prie pour le salut de ceux qui ne te connaissent pas encore. On prie aussi pour que ton peuple, nous tes enfants, rachetés par le sang précieux de Christ, ah, qu'on vive à la lumière de ce que nous sommes, de ce que tu as fait de nous en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta parole vivante, pour ce temps béni où est-ce que ton peuple réuni peut se rassembler et vraiment Seigneur, être enseigné de Dieu. Merci pour ta bonté. Seigneur, prends ce temps de réponse de ton peuple et que tu en sois glorifié, non seulement maintenant, mais Seigneur, dans la suite des choses. Opère ta délivrance, la grandeur de ta délivrance qui est en Jésus-Christ. On te prie toutes ces choses, au nom de Jésus. Amen.